Bonjour. Alors, je suis heureux d'être votre invité dans votre salon ce matin ou dans votre voiture aujourd'hui. Alors, je suis venu déjà avec une question. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a entre en commun entre ce mousseux, cette bière Corona, les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et Fête des Disciples, qui est notre série? Je pense qu'on a tous, on rêve que le mot bulle soit réservé aux bulles dans le mousseux. Nous avons tous envie que la bière, que le mot Corona, concerne uniquement une sorte de bière. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, les athlètes rêvent de recevoir une corona, une couronne, une médaille d'or. Pour obtenir une médaille d'or aux Jeux Olympiques, nous savons tous que les efforts, les entraînements, les renoncements fournis par les athlètes sont immenses. Être couronné, faire la une des journaux, des réseaux sociaux, être acclamé par le public est la récompense de nombreux sacrifices des athlètes. Quand les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été annulés au printemps dernier, beaucoup de sportifs sont tombés en dépression, ont été découragés. Plusieurs ont dû réfléchir au sens de leur vie, à l'utilité de leurs sacrifices. Certains ont dû se justifier devant leurs sponsors que même sans les Jeux Olympiques, même sans couronne, ils sont une valeur sûre, un bon investissement. Pourtant, on le sait, le titre de sportif numéro 1 est éphémère. Je ne suis pas sûr qu'un enfant âgé de 5 ans aujourd'hui parle dans 25 ans comme de Carey Price comme un excellent gardien de hockey ou comme Roger Federer comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Les sportifs d'aujourd'hui seront oubliés, classés dans un livre de souvenirs. Leurs records seront certainement battus. J'ai gagné cette couronne le 6 janvier. En mangeant avec ma famille la galette des rois, je suis tombé sur un morceau qui contenait la fève, sur le morceau qui contenait la fève. Donc j'ai été couronné, un pur hasard, une fierté qui a duré 5 secondes. Dans le monde sportif, les couronnes sont attribuées selon les performances, la force, la vitesse, l'agilité, la performance, la coordination des athlètes, etc., etc. La couronne, la médaille d'or, est donnée au vainqueur uniquement. Mais comme je l'ai dit précédemment, les récompenses du monde souillent, perdent de leur éclat. Savez-vous que de nombreux athlètes qui, après avoir été couronnés au plus haut statut, au plus haut niveau, perdent parfois leur médaille ? Oublient où elle se trouve, voire même certains qui la vendent. Être applaudi, être reconnu, donner des autographes, fait du bien. Mais devoir arrêter sa carrière à la suite d'une blessure ou parce que la performance baisse n'est pas toujours facile à vivre. Travailler fort pour peu de résultats visibles amène le doute, la comparaison, la peur de ne pas réussir. David, c'est un personnage biblique. David a été couronné comme roi d'Israël. David, c'était le petit berger, le fils qui faisait honte à son père, le petit frère qui n'était pas vraiment accepté par ses grands frères. David, lui, a été choisi comme roi. Et au sommet de sa popularité, quand tout allait bien pour lui dans son règne, Quand Israël était en paix, David ne s'est pas fait péter les bretelles. Il a reconnu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Le psaume 103 décrit l'état de son cœur. Voilà ce que dit David. C'est Dieu qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Psaume 103. David sait d'où il vient. Il n'a pas gagné au bingo le titre de roi. Il a accepté l'appel de Dieu sur sa vie. Et la Bible décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Dans ses chutes comme dans ses victoires, il laisse Dieu le rétablir, le rassurer, le soutenir. Face à ses fautes que tous voient, il ne se cache pas. Il se laisse trouver par Dieu, reprendre par amour avec ses conseillers, par ses conseillers. Au lieu de vivre avec l'étiquette coupable, il accueille le pardon de Dieu. Non pas pour une faute, mais pour toutes ses fautes. Et une fois pardonné, il ose lever la tête pour recevoir la guérison de ses dysfonctionnements, de ses maladies, de ses comportements. Il laisse la vérité de Dieu, ce que Dieu dit de lui, le libérer des mensonges qu'il a crus. Il connaît les conséquences de ses fautes. Il sait que son adultère le condamne à mort, selon la loi. Alors en reconnaissant ses fautes, ses torts, il comprend que la tombe n'est pas sa destination finale. Dieu met sur sa tête une couronne de bonté et de compassion. Être couronné pour un sportif donne un droit de parole. Tout le monde voudra savoir le secret de sa réussite, ce qui l'a conduit au sommet. Pardon. Je ne sais pas à quel moment de sa vie David a écrit le psaume 103. Mais avant ce psaume, j'ai l'impression que David est dans la crainte de ce que les gens pensent de lui. Après ce psaume, David partage ce que Dieu a fait. Partage ce que Dieu fait. On sait tous que les dernières paroles d'une personne en fin de vie sont une sorte d'héritage. Le mourant communique ce qui est important pour lui. Il parle de sa confiance, de ses souhaits, parfois même de ses dernières volontés, de ce qu'il aimerait voir se passer à la suite de son départ. Faites des disciples. C'est ce qu'il y avait sur le cœur de Jésus avant de retourner vers son Père pour nous préparer une place. Faites aux autres ce que j'ai fait pour vous, nous dit Jésus. Faites goûter ma bonté et ma compassion. Faites des disciples, c'est partager ce que Jésus a changé dans nos vies. C'est aimer, accompagner, poser une question, faire réfléchir. Ce n'est en tout cas pas enseigner ni faire la morale. Faites, c'est un impératif en français, à la deuxième personne du pluriel. Il concerne un ordre de marche, une mission pour chaque être humain. Comme Luc l'a dit il y a 2 semaines, faites des disciples n'est pas réservé à des spécialistes, à des responsables d'église, mais à toute personne qui aime Jésus. Faites, j'ai envie de dire, c'est rendre visible ce que Dieu a fait au-dedans de nous. Le verbe « faire » est utilisé en français pour différentes expressions. On dit par exemple « faire un film », c'est-à-dire être l'auteur du film. Faire un album de musique, c'est composer la musique, écrire les paroles d'un chant. Faire une maison, c'est la construire. Faire du ménage, c'est nettoyer. Faire ses devoirs, c'est étudier. Faire les foins, c'est récolter. Avoir une occupation, c'est répondre à la question « Mais que faites-vous dans la vie ?» Incroyable ce que Dieu a fait de toi. Alors là, on parle d'une transformation intérieure. Faire des enfants, c'est créer. Et quand Dieu fait les cieux et la terre, il donne naissance à une idée qu'il avait en tête. Faire, c'est une invitation à agir. C'est toute une série d'actions qui concernent chacun, qui se vit chaque jour. Faire, c'est être actif et non passif, être acteur et non spectateur. Dans le faire, il y a une certaine prise de risque. Je dirais, c'est comme ouvrir la danse et non attendre d'être invité. Pour Éric Sellerier, dans Top Chrétien, faire des disciples signifie aider une personne à découvrir la foi. Prendre le temps d'accompagner quelqu'un. Aider sans juger. Donner l'exemple. Prier sans compter. Et la personne au bénéfice de cet amour gratuit pourra elle-même faire du bien à une autre personne. Angie, notre missionnaire en Australie, a commencé à faire du bénévolat dans un café dans sa ville, à Townsville. Chaque mardi, depuis plusieurs semaines, elle rencontre le même client, un vétéran, un soldat qui a fait la guerre en Afghanistan, en Serbie, un soldat qui a vécu, qui a vu des horreurs. Et voilà, c'est dernièrement que cet homme, ce soldat, découvre qu'Angie est chrétienne. Et lui a dit, « Mais t'es bizarre, toi. Tu ne me parles pas de l'enfer. Tu ne me condamnes pas face à tout ce que j'ai fait. Tu ne me juges pas. Mais t'es qui, toi ?» Angie prend du temps pour l'écouter. Elle comprend qu'il souffre. Alors simplement un jour, elle décide de lui prêter un livre. Ce soldat est en train de découvrir la compassion de Dieu au travers de sa lecture, au travers de son partage avec Angie. Il s'est senti accueilli dans sa saison de vie. Pour moi, faire des disciples, ce n'est pas une performance à atteindre, ni une pression de faire un résultat. C'est parce que je suis aimé de Dieu que je peux bénir, encourager, accompagner. Sans amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit, comme l'apôtre Paul l'a dit. Je dirais, avec mes mots, sans amour, je suis une plante sans eau. Donc, je suis sec, fané, bon à jeter. Chaque matin, dans mon culte personnel, je me laisse à nouveau couronner de la bonté et de la compassion de Dieu. Et j'espère dans ma journée faire des disciples en saisissant des occasions pour bénir. Un petit témoignage, il y a 10 jours environ, mon ami Atikamek me téléphone et m'invite à le rencontrer à Joliette. Sa femme a été hospitalisée et tous les deux, ils doivent rester au moins 2 mois dans un foyer en plein centre-ville de Joliette. Parce que madame a besoin d'être suivie médicalement tous les jours. Au moment où je rencontre mon ami en pleine ville, il sort de sa poche une sauge, de la sauge. Et je comprends tout de suite que mon ami a besoin de faire un rite de purification. En effet, il me demande de le conduire dans un endroit où il peut faire sa prière sans être dérangé, faire un feu sans être dénoncé. Je prie quelques secondes, Seigneur aide-moi, et je reçois tout de suite un lieu dans ma tête. Je veux honorer sa demande, il cherche la paix intérieure. Il a besoin de se connecter avec la nature. Alors je le conduis près d'une rivière, dans la forêt. Une fois arrivé, mon ami allume sa sauge et il commence à prier. Il se tourne vers l'est. Il remercie la vie. Il se tourne ensuite vers le sud. Il remercie la lumière qui brille, qui réchauffe. Il demande d'être rempli de la lumière pour éclairer ses pas. Il se tourne vers l'ouest pour honorer ses ancêtres, ses parents. Il remercie toutes les personnes qui ont été un soutien dans sa vie, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il est devenu. Et il termine en se tournant vers le nord, en déposant ce qui est lourd, ce qui est difficile, ce qui le trouble. J'ai été très, très ému d'être invité dans sa vulnérabilité. Mon ami me donne alors sa sauge et il m'invite à mon tour à prier. Alors je prie Jésus et comme lui, je me tourne vers les quatre directions. Je commence à remercier le grand Créateur parce qu'il donne la vie. Je demande que son amour nous remplisse, qu'il fasse de nous des phares qui brillent dans la nuit. Je remercie Dieu pour l'amour de ma femme, de mes enfants, de mes collègues, de ma famille. Et je termine en déposant ce qui est lourd, entre autres la pandémie. Quand je dis « Amen », il me prend par la main. Il m'invite. « T'es d'accord que quand on pourra se retrouver, on va passer 3 jours dans la forêt pour partager notre spiritualité ? J'ai des questions. » Je me réjouis déjà. Être couronné de Dieu nous donne non seulement le statut de prince et de princesse, mais le privilège de partager sa bonté et sa compassion avec honneur. Être couronné de Dieu, c'est marcher dans les mocassins de nos amis pour les comprendre. Faire des disciples, c'est voir, c'est mettre en évidence l'or qui est en l'autre. Faire confiance que Dieu ne veut pas que ses enfants, c'est-à-dire tous les êtres humains, ne se perdent. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut qu'aucun ne se perde. Faire des disciples, c'est faire confiance au point de lâcher le contrôle. Jésus est un excellent exemple. On va lire ensemble Marc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Marc 10, 17 à 22. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » ?»« Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol. » Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. « Suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Comment avoir la vie éternelle ? Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est la question que j'aimerais entendre de mes amis qui ne connaissent pas encore Jésus. Thierry Juvet, dans son livre « Honneur et puissance », donne une explication de cette histoire. Je vais essayer de vous résumer sa pensée, puis si vous êtes intéressé par son livre, contactez-moi. Jésus a quitté le ciel pour venir en tant qu'homme sur terre, pour révéler le Père, pour donner la vie éternelle. Et Jésus se trouve face à un jeune homme avec une bonne question, la bonne question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Alors là, je me mets dans la peau de Jésus. « Hé, papa ! Oh Dieu, t'as vu ce qu'il vient de me dire, là ? Quel beau moment tu me donnes ! » Le jeune homme a tout compris. Il sait que je suis venu pour ça. Il est mûr pour recevoir notre message. « Oh, papa, il va rejoindre notre famille !» Yes, we can. Jésus ne donne pas une réponse au jeune homme. Il veut le faire grandir. Au lieu de lui dire « Rejoins mon équipe, apprends à croire en moi », qui est la réponse logique, selon moi, Jésus prend le risque de le confronter. Tout d'abord, Jésus aime l'honnêteté, l'obéissance du jeune homme. Il le lui fait savoir. Mais il a ensuite une intuition. « Il te manque quelque chose, cher ami. » L'observation de la loi ne donne pas l'assurance de la vie éternelle. Le jeune homme vit dans l'illusion qu'il est capable d'accomplir la loi dans sa totalité, qu'il lui suffit encore d'ajouter quelque chose pour gagner la vie éternelle. Être bon ne donne pas la vie éternelle. Ouch! Jésus répond avec une exigence. Vends tous tes biens et suis-moi. Jésus lui donne la chance de réaliser son incapacité. Il l'invite de se tourner vers lui, de lui demander de l'aide. La clé pour comprendre le pari de Jésus se résume en trois mots. Jésus l'aima. Nous avons beau avoir une couronne sur notre tête, parce que nous sommes couronnés de bonté et de compassion. Pour faire des disciples, nous avons besoin d'être remplis d'amour. Jésus a dit la vérité, même s'il n'était pas facile à entendre. En exigeant à l'homme de vendre ses biens et de le suivre, j'ai l'impression au premier abord que Jésus le met hors jeu. Mais est-ce que Jésus alors a perdu une âme en ne répondant pas à la question? Parce que le texte nous dit que cet homme s'assombrit et s'en va tout triste. Jésus n'a même pas envoyé un de ses disciples pour accompagner cet homme dans un travail de suite. Attendez, Pierre, tu peux vite aller t'occuper de ce jeune homme et lui dire que tiens, il n'a peut-être pas tout à fait répondu correct, mais tu comprends quoi? Jésus ne se comporte même pas comme certains vendeurs qui ne lâchent pas leurs clients, qui culpabilisent leurs clients même s'ils n'achètent rien. Jésus laisse partir cet homme sans insister. Il ne cherche pas à le contrôler, ne le menace pas. Il a fait sa part en lui disant la vérité dans l'amour. Il laisse au jeune homme la responsabilité de son choix. Il l'honore en lui faisant confiance dans sa capacité de gérer sa propre vie. En restant dans sa zone de responsabilité, Jésus lui permet de prendre la sienne, de cheminer. Il laisse au Saint-Esprit son ministère qui est de révéler la vérité et de conduire dans la vérité. Donc ce n'est pas un échec pour Jésus, ni pour le jeune homme qui pourra continuer à progresser. Jésus a fait sa part. L'homme, le jeune homme, va pouvoir continuer de réfléchir. Jésus a une très grande confiance dans son papa. C'est pourquoi il l'a laissé partir. Il sait que ce jeune homme aura l'occasion, d'autres occasions, d'entendre l'appel et d'y répondre un jour où il sera mûr. Est-ce que nous avons cette confiance-là en Dieu? Que Dieu sait tout. Notre responsabilité, c'est de faire des disciples. C'est exprimer notre témoignage en paroles, en actes autour de nous. La responsabilité de notre ami, c'est d'y répondre. Mais la responsabilité du Saint-Esprit, c'est de révéler la vérité. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui va révéler la vérité. Mon ami Julien se réjouissait d'aller skier. Donc il est parti skier, il était content de la belle neige. Il achète son abonnement, il fait deux descentes, il a un mal de ventre. Il ne se sent vraiment pas bien, Il comprend qu'il doit renoncer à sa journée de ski. Triste, déçu, il retourne dans la voiture, il dit « Seigneur, je ne comprends pas, il fait grand beau, je me fais plaisir, puis je vois que je ne peux plus skier. » À l'intérieur de lui, il entend une petite voix, « Mais je ne t'ai pas juste amené pour que tu puisses skier. Donne ton abonnement de ski de la journée à quelqu'un qui est dans le besoin. » Surpris, mon ami commence à réfléchir. Il se souvient qu'il a fait une chasse au trésor à l'époque. « Alors Seigneur, montre-moi à qui je dois donner. » Et il reçoit que le skieur a une veste de telle couleur, que le skieur qui est dans le besoin a un bonnet et non un casque. Il reçoit différents détails, il cherche dans le parking et trouve cette personne. « Tiens, ben voilà, je suis désolé, je ne peux pas skier. Ben, je suis désolé, je n'arrive pas à skier aujourd'hui, je ne suis pas bien. J'ai l'impression que je dois t'offrir mon abonnement de ski pour la journée. » Surpris. Le bonhomme dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Julien lui explique simplement « Ben, t'es mon trésor aujourd'hui. Je te donne ce billet. » Un autre témoignage, je rencontre il y a quelques années Nathalie à Manawan. J'ai pu lui rendre visite plusieurs fois, on est toujours en contact. Elle me parle, quelques années, donc, du projet du docteur Stanley. Une marche de 10 jours en raquette dans le bois pour honorer les ancêtres qui étaient nomades, pour prendre soin de leur santé en faisant de l'exercice physique, pour connaître le grand créateur. Alors je me rends au départ de la marche. Je rencontre Nathalie. Et comme homme blanc, je n'ai pas le droit de marcher avec eux. Mais je vois Nathalie qui pleure. Elle m'explique que son mari vient de la quitter parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle croit aux paroles blessantes de son ex. Elle se trouve grosse, moche, indésirable, incapable. Elle se sent sans force pour marcher. Je l'écoute. Puis au fond de moi, j'ai envie de lui dire plein de choses, mais je ne peux pas parce que c'est bientôt le départ. Alors je ne sais pas trop comment, mais j'ose lui dire à peu près ceci, à peu près ces paroles. Nathalie, dans ta marche, prends le temps d'écouter ce que le grand créateur te dit. Écoute ce que le grand créateur veut te dire, ce qu'il dit de toi. Écoute la voix d'en haut, dans ta marche, et non la voix accusatrice qui parle à l'intérieur. Je les laisse partir. Je retourne chez moi. C'est long 10 jours. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et au bout de 10 jours, je retrouve Nathalie à l'arrivée de la marche. Le village de Manawan est, je pense, sorti en entier de leur maison. Ils font une haie d'honneur pour accueillir chaque marcheur. Je vois Nathalie à l'arrivée. Elle fonce vers moi. Elle me demande de me mettre un petit peu à l'écart. Elle me dit « Laurent, il m'a parlé. Il m'a dit que je suis belle, précieuse, digne d'être aimée. » Dieu lui avait directement parlé. Je vous assure qu'il l'a fait bien mieux que moi. L'histoire de notre vie chrétienne commence par la mort de Jésus sur la croix. Au lieu de prononcer « coupable », il dépose une couronne sur notre tête. Dans son amour, il s'engage à nous rendre sécures. Il nous rassure de notre identité pour ne pas ressentir le besoin d'essayer de contrôler ceux qui pensent différemment. Il nous apprend à ne pas laisser notre crainte conduire notre façon d'être en relation. Nous sommes couronnés pour faire des disciples avec honneur. Accueillons encore aujourd'hui le souffle de Dieu. Inspirons sa vie. Respirons sa vie. Laissons-le nous conduire et nous faire entrer dans son dynamisme. Dieu ne veut pas qu'on s'isole du monde, mais qu'on suive le modèle de Jésus qui a mangé avec des prostituées, avec des collecteurs d'impôts, des pécheurs. Alors que Dieu, dans ses prochains jours, nous révèle sa perspective sur les personnes qui nous entourent, faisons-lui confiance.
Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour la couronne de compassion et de bonté que tu déposes sur nous. Non pas une couronne selon nos mérites, selon notre travail, selon nos efforts comme un sportif, mais c'est ton choix. C'est ta grâce qui nous lave, qui nous purifie et qui nous donne le droit de parler. Alors merci pour les personnes qui sont autour de nous. Donne-nous de comprendre ton agenda. Donne-nous de comprendre quelles paroles tu veux qu'on dise, quelles questions tu veux qu'on dise. Et on te fait confiance que les personnes qui nous entourent, elles sont en cheminement et que tu vas te manifester dans leur vie, tu vas leur parler. Alors merci de nous aider à mettre en pratique, à faire des disciples, à être témoins. Je te remercie et je te demande de bénir la journée de chacun dans sa famille, là où il est, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Merci beaucoup.